Bonjour, moi c'est Pascal, je suis une maman de deux enfants, donc un garçon qui a bientôt 7 ans et une petite fille de 5 ans. Et avec mon mari, on a fait le choix il y a maintenant un an et demi de la vasectomie. Je dis on parce que on a pris la décision à deux, c'est moi qui ai lancé le sujet. À l'arrivée de ma deuxième fille, en fait, je voulais plus du tout repartir, prendre une contraception, quelle qu'elle soit. Donc on a passé quelques mois, ben en fait, voilà, en ayant toujours un peu le flip que je retombe enceinte. C'était pas très agréable et voilà, donc je me suis dit bah pourquoi pas tenter cette méthode. Mon mari lui est brésilien et du coup ça le dérangeait pas du tout parce que là-bas il le pratique de manière très courante. Donc une fois qu'on avait pris la décision, mon mari a trouvé le chirurgien. Il n'y en a pas beaucoup, vraiment pas beaucoup à Lyon. Après il a fait son premier rendez-vous et puis 4 mois plus tard il a fait sa chirurgie en ambulatoire. Donc ça met une heure, même pas. Après, vous quittez l'hôpital, vous restez un jour à la maison tranquille. Et puis voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Et puis bah, aujourd'hui, pour nous, c'est plus du tout un sujet. On essaye d'en faire la promotion à nos amis, mais ça marche pas beaucoup. Je crois qu'en France, les gens sont encore un peu craintifs de ce mode de contraception, alors que vraiment, il est sans danger. C'est vrai qu'il est irréversible. Quasiment irréversible, mais bon, globalement, quand on prend la décision, c'est qu'on sait que de toute façon, on ne veut plus d'enfants.
Si on faisait un sondage sur nos connaissances à propos de la contraception, mais attention, pas n'importe laquelle, la contraception masculine. Alors, laquelle, lesquelles existent? En règle générale, on répond le retrait. Méthode naturelle, vous allez me dire, mais pas vraiment efficace. On est d'accord que la contraception reste aujourd'hui une affaire de femmes. Peu d'hommes se penchent véritablement sur le sujet, même si on sent un frémissement et qu'on garde l'espoir que cela change. Le souci réside véritablement dans la non-information, car une femme qui va chez son gynéco et se plaint d'en avoir marre de prendre la pilule, mettre un stérilet et demande quelle autre solution existe, c'est à elle que le praticien va dire « Avez-vous pensé à la contraception masculine ?» C'est à la femme d'aller expliquer à son conjoint ce qui existe. Donc, on en revient à ce problème de base, à savoir la contraception demeure une charge, et je pèse mon mot, exclusivement féminine. Mais est-ce que la science se penche vraiment sur le sujet? Existe-t-il à ce jour un panel diversifié de moyens de contraception pour les hommes? Et si oui, pourquoi en parlons-nous si peu et surtout, qu'en pensent vraiment les hommes? Je reçois pour ce podcast l'exception qui confirme la règle. Un homme qui, parmi d'autres, heureusement, s'intéresse à la question, c'est Erwan Taverne, le cofondateur de GARCON, le groupe d'action et de recherche pour la contraception. Il va répondre aux questions que nous nous posons toutes. Bonjour, je suis Dorothée Saada, la maman curieuse qui, pour parents, cherche comment on fait chez les autres pour vous aider à trouver des solutions avec vos enfants. Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast Parents Galère sa mère. Un épisode « La contraception masculine, ça existe vraiment ?» Bonjour Erwan Taverne.
Bonjour.
Alors on va commencer par vous demander combien de types de contraception masculine existent aujourd'hui et quelle est la plus utilisée?
Alors habituellement, on présente et on connaît le préservatif, la vasectomie et le retrait. On parle moins souvent de la possibilité d'envisager d'autres scripts sexuels sans pénétration pénovaginale, ou en envisageant par exemple d'autres pénétrations avec ou sans sextoys, de laisser plus de place aux caresses plutôt qu'à la pénétration. Et puis il y a aussi des méthodes expérimentales qui sont déjà utilisées.
La plus utilisée selon vous aujourd'hui en France, c'est le préservatif ou pas?
Ouais, aujourd'hui c'est le préservatif hein, qui représente à peu près 10%, 11% du paysage contraceptif français. Le retrait et la vasectomie restent très marginales, même si ces méthodes sont en augmentation ces dernières années, puisque de plus en plus de femmes refusent de porter seule cette charge contraceptive.
Donc une femme qui, je le disais, hein, va dire à son compagnon, bah, écoute, aujourd'hui moi j'en ai marre de porter cette charge, hein, comme vous disiez, et que je disais également. Oui. Que va répondre automatiquement un homme? Il va lui dire « bon bah ok, on va passer au préservatif », c'est la première idée qu'il va avoir?
Alors c'est rarement lui qui le propose, et c'est justement parce que finalement la vasectomie étant considérée comme définitive et le retrait trop fiable, c'est ça qui oriente vers le préservatif, mais comme il y a beaucoup d'hommes qui préfèrent s'en passer, c'est là où on voit qu'ils peuvent avoir envie de disposer d'un éventail plus large. Maintenant, j'ai envie de préciser quand même que le paysage là qu'on vient de brosser, il est très français. Si on regarde ce qui se passe dans d'autres pays, on voit que c'est quelque chose qui varie énormément d'un pays à l'autre. Par exemple, la Slovénie, c'est un pays où trois quarts de la contraception est portée par les hommes.
Ouais.
Le préservatif représente presque la moitié des usages et le retrait un quart. En Espagne, le préservatif, c'est également la moitié des usages. Mmh. Au Japon, c'est un tiers. Et avec les 8% de vasectomie qu'il y a en plus, ça fait 40% du paysage contraceptif qui est masculin là-bas. Puis Grande-Bretagne, Canada, c'est également des pays où l'implication des hommes est bien plus importante qu'en France.
Uh-huh. Donc ça, c'est une sacrée question à se poser. Pourquoi est-ce que l'implication est moindre chez les hommes en France ?
Oui, alors on a des réponses hein, par rapport à ça. On sait que c'est structurel, c'est ce qu'on appelle la norme contraceptive française, où on a fortement médicalisé la contraception des femmes et considéré qu'il fallait les inciter très fortement à prendre une méthode considérée comme très efficace, qui est la pilule.
Oui. Dans les années 80, la pilule contraceptive masculine a quand même vu le jour. On en avait parlé à un moment donné. On n'en parle plus tellement. Qu'en est-il aujourd'hui ?
Effectivement, elle a été utilisée. À l'époque, c'était deux comprimés de progestatif et un gel de testostérone. Le problème, c'est que cette testostérone a été diffusée et absorbée en partie par les partenaires.
Ouais.
Donc, du coup, aujourd'hui, on propose plutôt des injections hebdomadaires d'un dérivé de testostérone.
Mais c'est encore proposé aux hommes, ça existe.
Alors, ça existe. Maintenant, cette substance, elle est utilisée hors autorisation de mise sur le marché pour cet usage.
Mm-hmm.
Et donc, rares sont les médecins qui acceptent de la prescrire.
Parce que c'est vrai, j'en parlais au début, c'est-à-dire qu'une femme qui veut parler de contraception, elle va chez son gynéco, mais l'homme, il va chez qui ?
Alors, il peut aller chez un andrologue.
C'est rare quand même.
C'est une spécialité très rare en France.
Bah ouais.
Il y a les urologues quand on veut pratiquer une vasectomie. Par contre, pour les méthodes émergentes là dont on parle, très très peu sont ouverts à ces méthodes-là.
Ouais, c'est embêtant. Vous parliez de vasectomie, justement, c'est le grand sujet d'actualité hein, aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le principe et puis surtout répondre à cette fameuse question que se posent les hommes ? Est-ce que c'est irréversible ?
Alors, on sait que les spermatozoïdes sont produits par les testicules.
Mmh.
Ce qu'on sait moins, c'est qu'ils représentent seulement 1 à 2 % du volume du sperme et que le reste est constitué de liquides qui sont produits par la prostate et les vésicules séminales.
Mmh.
Et donc, dans la vasectomie, ce qu'on fait, c'est qu'on va sectionner les canaux qui sont juste à la sortie des testicules et qui vont acheminer les spermatozoïdes vers la prostate.
Okay.
Donc, on va continuer à éjaculer, mais sans spermatozoïdes. Et comme il ne représente presque rien du volume, c'est imperceptible lors de l'éjaculation. Et puis, on ne modifie pas le fonctionnement des testicules qui continuent à produire les mêmes hormones. Donc, voilà, il n'y a pas d'effet indésirable induit par la vasectomie. C'est pas une castration.
Pour être très, très clair, ça n'altère absolument pas le plaisir de l'homme.
Ah non. De toute façon, en fait, ni son plaisir, ni sa libido. En fait, on connaît la castration chez les animaux et on voit ce que ça peut induire en fait, sur leur corps et sur leur comportement. Mais sur la vasectomie, justement, on préserve le fonctionnement des testicules.
Mais ce qui peut faire peur, entre guillemets, hein, c'est cette intervention. Alors, est-ce que c'est une intervention qui est lourde en chirurgie ou pas ?
Dans les pays où c'est régulièrement pratiqué, elle se fait en un quart d'heure sous anesthésie locale. On peut pratiquer une anesthésie sans bistouri où il y a éventuellement une incision tellement petite qu'il n'y a pas besoin de point de suture.
Ah ouais.
Éventuellement, il peut y en avoir un. Donc, c'est vraiment une intervention très, très simple. Je pense qu'il y a des rendez-vous chez le dentiste qui sont
plus douloureux.
Non, c'est vraiment une opération très, très simple.
Qui la pratique d'ailleurs ? Donc, du coup, c'est parce qu'on disait, andrologue, c'est pas facile d'en trouver. Donc, qui pratique cette opération ?
Du coup, aujourd'hui, c'est majoritairement les urologues qui vont s'en occuper.
Et donc, est-ce que c'est irréversible, cette intervention ?
Alors, ça reste à considérer comme irréversible parce que on peut effectivement proposer un certain nombre de choses aux hommes qui exprimeraient plus tard un regret, mais on ne peut pas leur garantir que ça va fonctionner. Et on arrive à provoquer une grossesse dans à peu près la moitié des cas. Alors, les pourcentages sont assez variables, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en tout cas, oui, il faut la considérer comme définitive. Si on part vers ça, c'est qu'on a vraiment dans l'idée de ne plus procréer.
« Moi, j'ai vu des articles, encore une fois, et j'en parlerai après, quand même, on a assez peu d'informations sur ces sujets-là. Donc, je suis tombée sur un article sur la contraception thermique, le fameux slip chauffant, c'est ça ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça marche ?
Oui, alors bon, déjà, je vais tout de suite dire que je préfère ne pas parler de slip chauffant.
Ok.
D'une part, parce qu'il y a différents dispositifs et pas seulement le slip. Et puis, que le dispositif en lui-même ne chauffe pas, c'est vraiment la chaleur du corps qui est utilisée. Et puis, il existe également un boxer qui est commercialisé où il y a une résistance électrique et une batterie, mais là, on va chauffer plus fort et moins longtemps. Et là, physiologiquement, ça change des choses. Donc, pour ne pas confondre ces différentes méthodes, je trouve que c'est vraiment intéressant de bien les distinguer. Mmh. En tout cas, justement, ce qu'on sait, c'est que les testicules peuvent produire des spermatozoïdes si leur température est de l'ordre de 34-35 degrés, et c'est pour ça qu'ils sont dans le scrotum, un peu éloignés du corps, pour maintenir cette température-là. Mmh. Si on augmente cette température d'environ 2 degrés, tous les jours, du matin au soir, en privilégiant les heures d'éveil, on sait qu'on va bloquer la spermatogénèse, la production des spermatozoïdes. Alors, mmh. ça prend un peu de temps, hein, il faut attendre au moins 3 mois pour que ce soit efficace.
Okay.
On va vérifier avec des spermogrammes hein, que ça fonctionne correctement, qu'on applique bien le protocole, que le maintien est bon, etc. Mais voilà, en fait, c'est juste le chauffage des testicules qui permet d'obtenir cet effet.
Ok. Bon, donc c'est efficace, c'est une méthode qui est efficace.
Si elle est bien appliquée, avec des dispositifs qui sont bien adaptés, c'est très efficace.
Et combien d'hommes aujourd'hui utilisent ce procédé ? Est-ce qu'on le sait ?
Alors aujourd'hui, les chiffres dont on dispose nous font qu'on peut estimer à plusieurs milliers, sans doute pas tout à fait 10 000, mais voilà, plusieurs milliers de personnes qui sont en train d'utiliser cette méthode depuis plus ou moins longtemps. La personne que je connais qui l'utilise depuis la plus longue durée, ça fait 10 ans qu'elle pratique ça. Moi, j'en suis à 6 ans.
D'accord. Donc, ça existe quand même depuis 10 ans. Moi, j'ai l'impression que, voilà, on en parle depuis quelques mois. Ça existe depuis 10 ans.
Alors, en fait, les premiers essais, ils ont commencé il y a une quarantaine d'années même.
Ah, OK.
Mais c'est resté très, très marginal. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que suite aux premiers essais, en fait, il y a eu l'épidémie de sida qui est arrivée.
Mm-hmm.
Et puis aussi la lassitude de pas être pris très au sérieux. Et donc, ça a fait que beaucoup de choses se sont mises en sommeil. Mais néanmoins, Roger Miossé, donc, qui était dans le groupe de Toulouse dès le début, lui en a fait le fil directeur de sa carrière d'andrologue. Et donc, il a poursuivi les expérimentations avec un nombre très, très restreint de patients.
Oui.
Mais ça a quand même permis d'accumuler quelques informations fort intéressantes. Et c'est sans doute la crise de la pilule qui a permis de redonner un élan à ces méthodes-là.
Est-ce qu'on sait aujourd'hui si la science se penche sur d'autres méthodes contraceptives pour les hommes ?
Oui, il y a des recherches, mais qui sont très peu financées, en fait. Hein.
D'accord.
On sait qu'il y a plein de voies qui sont envisageables, sur lesquelles il y a un peu de recherche. Si on finançait ça correctement, on pourrait vraiment avoir un éventail beaucoup plus large que ce qui existe aujourd'hui. Les difficultés ne sont pas d'ordre technique ou physiologique. Hein. C'est vraiment une question d'intérêt porté sur la question.
Donc, aujourd'hui, si on voit si peu d'informations sur le sujet, c'est parce que ce n'est pas financé, c'est ça ?
Oui. Alors là, on a parlé de la recherche, mais il faut savoir aussi que les associations qui sont impliquées sur le sujet disposent de vraiment très peu de moyens. Et justement, c'est très intéressant de voir le décalage énorme qu'il y a entre ce sujet qui est en train d'émerger, où il y a vraiment de plus en plus de demandes, et si peu de moyens pour la satisfaire.
Comment on explique ça ?
Alors, faut bien avoir conscience que s'il y a des moyens sur la contraception des femmes et puis le droit à l'avortement, c'est parce qu'elles se sont massivement mobilisées et battues pour pouvoir y accéder. Et là, clairement, on n'a pas la même mobilisation de la part des hommes sur ce sujet-là. Et puis, faut bien voir que sur toutes ces questions-là, finalement, les institutions, elles ont toujours un train de retard sur les usages.
Oui.
Et donc, c'est pour ça que nous, on fait en sorte de rendre ces méthodes, même si elles sont expérimentales, accessibles. Et puis, de développer aussi toutes les réflexions et l'usage des méthodes qui sont déjà reconnues, que sont la vasectomie, le préservatif.
Oui, alors, justement, donc, on parlait de ces femmes qui se sont battues, que les hommes, se bougent-ils vraiment aujourd'hui ? Combien d'hommes, par exemple, se sont fait vasectomiser l'an passé ? Est-ce qu'on le sait ?
Oui, alors là, on a un chiffre un peu plus lu de 23 000 vasectomies en France en 2021. Et ça, c'est intéressant de le mettre en perspective avec ce qui se passait en 2010, où on en avait 12 fois moins.
Ouais, quand même, plus d'implications.
Et là, c'est en l'absence de toute politique publique. Hein, c'est donc justement, je pense que c'est vraiment une transformation qui est en train de s'opérer dans la société. Mmh. Et que si en plus, il y avait une volonté des institutions de mieux informer, de rendre cette intervention plus accessible, de lever certains freins, on pourrait continuer à aller bien au-delà. Typiquement, je pense au délai de réflexion obligatoire de 4 mois qui est imposé.
Pour la vasectomie ?
Pour pouvoir accéder à la vasectomie et ouais. d'une manière générale à une stérilisation, ouais. c'est la seule intervention pour laquelle il existe un délai de réflexion obligatoire aussi long. À titre de comparaison, une intervention de chirurgie esthétique, le délai de réflexion, il est de 15 jours.
Et ligature des trompes, ce serait intéressant de savoir aussi.
C'est exactement la même chose.
C'est-à-dire ?
C'est le même texte de loi, c'est 4 mois de délai de réflexion.
C'est pareil, ok, d'accord.
Et la loi pose des conditions obligatoires à remplir, mais n'offre aucune garantie. Et donc, on constate qu'il y a voilà, beaucoup de personnes qui voudraient pouvoir être stérilisées et qui ont du mal à trouver un praticien qui accepte d'intervenir.
Ah oui.
Donc là, on voit qu'il y a des vrais freins institutionnels.
Est-ce que si on va aujourd'hui, voilà, on descend dans la rue, on va interviewer les hommes, on va interviewer les femmes, n'importe qui, est-ce qu'on a une idée de ce que pensent majoritairement les hommes de la contraception masculine et les femmes aussi d'ailleurs ?
Moi, ce que je constate, c'est que très clairement, encore aujourd'hui, ce sont essentiellement les femmes qui s'intéressent à ce sujet. Et que la plupart des hommes, tant qu'ils ne seront pas mis au pied du mur, ils ne bougeront pas beaucoup. Ils estiment encore majoritairement que finalement, c'est aux femmes de les mettre au pied du mur. J'ai encore constaté ça hier. Hein.
Ah oui,
oui, oui.
Et pourquoi est-ce que les hommes ne se sentent pas vraiment concernés alors par le sujet ? Où est-ce que ça coince ?
Pour eux, l'enjeu leur paraît pas aussi important puisqu'ils ont l'habitude de constater que leur partenaire porte cette charge contraceptive, qu'elle leur offre la garantie qu'ils se retrouveront pas par an s'ils ne le souhaitent pas. Ouais. Ils savent que s'ils disent qu'ils ne seront pas là pour aider, pour participer à l'éducation de cet enfant, ben leur partenaire décidera de ne pas poursuivre la grossesse. Mmh. Et donc, voilà, ils se reposent beaucoup là-dessus, jusqu'au moment où ils se rendent compte qu'en prenant de l'âge, partenaire de 30-35 ans qui a longtemps porté la charge contraceptive, qui a peut-être déjà avorté, ben, à ce moment-là de sa vie, se sent capable. Et se sent l'envie de poursuivre une grossesse, même si elle n'était pas attendue, pas spécialement désirée par le géniteur. Et c'est là où on entend des hommes qui disent « Ah, elle m'a fait un gamin dans le dos ». Non, c'est juste qu'eux n'ont rien fait pour gérer leur fertilité. Il faut bien avoir en tête que, puisque les femmes sont libres de disposer comme elles le veulent de leur corps, et que ça, c'est important de préserver ce droit, les hommes ne peuvent choisir de devenir géniteurs ou pas qu'avant la fécondation.
Ben oui.
Une fois qu'elle a eu lieu, ils ont plus la possibilité de choisir.
Mm-mm. Alors comment on pourrait faire aujourd'hui pour que la contraception masculine devienne aussi répandue que la féminine et essayer de faire comme les Slovènes ? Comment est-ce qu'on pourrait faire comme les Slovènes ?
Alors, c'est regrettable, mais je pense que vraiment, si la communauté des femmes ne se décide pas à mettre les hommes au pied du mur, si elles ne leur disent pas massivement qu'il est hors de question que eux se reposent sur leur contraception à elles, si elles leur disent « qu'est-ce que tu envisages en termes de contraception ? Tu envisages de te reposer sur ma méthode ? Non. Tu envisages quoi ? Le retrait ? Non, c'est trop peu efficace. Non plus. » Donc, je veux que tu me proposes de participer de manière efficace à notre contraception. Moi, je prends ma part avec ma méthode. Toi, tu prends ta part avec ta méthode. Ça sera au moins le préservatif. Si ça ne te convient pas, il va falloir envisager autre chose. Mais tant qu'il n'y aura rien d'autre, ben, soit il n'y aura pas de pénétration pénovaginale, soit il y aura un préservatif.
Ouais.
Voilà. Et je pense que plus les hommes seront confrontés à ça, et plus ils se décideront à faire quelque chose.
Est-ce qu'on ne pourrait pas se dire aussi qu'on peut passer avant tout aujourd'hui par l'éducation de nos ados, essayer de commencer jeune et que les jeunes gens, les jeunes hommes l'entendent?
Alors, ils ne nous ont pas attendus. Moi, je vois que les générations les plus jeunes sont beaucoup plus ouvertes à ces problématiques-là que les générations précédentes. Néanmoins, oui, c'est important de discuter de tout ça parce que je pense que ça reste un sujet qui est finalement plus complexe qu'il y paraît. On pourrait croire qu'il suffit de se remonter les testicules pour que tout se passe bien. Et non, en fait, il y a un protocole à respecter. Il y a de la physiologie derrière. Enfin, voilà, il y a un vrai apprentissage pour que tout ça se soit efficace. Il y a des vrais enjeux à travailler. Donc oui, il faut, à mon avis, mettre davantage de moyens sur l'éducation, sur ces questions-là, d'autant plus que s'interroger là-dessus et des rapports que ça peut poser, je pense que ça peut participer à réduire un certain nombre d'autres problèmes et, par exemple, celui des violences conjugales. Je pense que plus on aura de portes d'entrée pour travailler l'importance de se respecter soi et de respecter nos partenaires, et plus on arrivera à faire se résorber ces difficultés-là. Donc oui, il faut le faire. Maintenant, il faut bien avoir conscience que ces méthodes émergentes dont on vient de parler, ou la vasectomie, ne sont pas adaptées à des adolescents.
Non.
Donc c'est vraiment le préservatif, et puis envisager, comme je disais au tout début, d'autres scripts sexuels.
Mais qui en parle aux ados, ça? Qui en parle?
Justement, aujourd'hui, la loi de 2001, qui prévoit 3 séances annuelles de l'école jusqu'à la fin du lycée, n'est pas appliquée. Quand elle l'est, en général, cette mission-là, dans le secondaire, elle est souvent confiée à l'infirmière scolaire, qui est rarement un infirmier. Et donc là aussi, ça peut poser problème, le fait que les adolescents ne puissent pas se confronter au discours et à l'expérience d'un homme. Et je pense que c'est important aussi, plutôt que de rajouter une tâche aux infirmières scolaires, de pouvoir faire intervenir des personnes qui se sont vraiment spécialisées sur ce sujet-là. Donc c'est là où je pense que ce serait vraiment important de débloquer des moyens pour que tout le tissu associatif puisse rémunérer des personnes qui y passent vraiment du temps.
Est-ce que vous pensez, pour clore ce sujet, que si les hommes s'y intéressent aussi peu, c'est parce qu'ils voient en la contraception masculine une forme d'atteinte à leur virilité, une perte de liberté liée, si on pense à la vasectomie, à cette possibilité qu'ils ont de pouvoir finalement faire un enfant toute leur vie?
Alors pour certains, ça peut être ça. Maintenant, je pense que c'est important de se rappeler que la communauté des hommes n'est pas homogène.
Bien sûr.
Et que justement, il y a tout un tas d'hommes qui sont très ouverts sur ces questions, heureusement. Et puis, cette représentation de la virilité qui serait un type de masculinité supérieure aux autres n'est pas ancré que dans l'imaginaire masculin. C'est-à-dire, il y a encore beaucoup de femmes qui sont encore attachées à ce modèle-là. Donc, ce travail sur les représentations, je pense que il concerne autant les femmes que les hommes.
Bon, on a un sacré boulot à faire quand même. Il y a quand même, mais c'est bien. Je vois par rapport à votre association, il y a du travail en perspective, quoi.
Ah oui. Là, c'est pas le travail qui manque. Hein. C'est vraiment les moyens.
C'est les moyens. On a bien compris. Ce sont les moyens qui manquent pour que le sujet soit diffusé beaucoup plus largement dans notre pays et pour qu'on puisse, on l'a dit, fonctionner comme d'autres pays en Europe et ailleurs qui ont déjà pris le pli. Et pas nous. Pourquoi pas nous? Il faut qu'on avance.
Mais oui, surtout que cette méthode thermique, justement, elle est née en France et elle pourrait trouver de la preuve dans beaucoup d'autres pays. Et c'est dommage, en fait, que depuis 40 ans, on ait commencé à mettre ça au point et que finalement, on en fasse si peu de choses.
Et oui. Je vous remercie, Erwan Taverne, parce que vous nous avez quand même éclairé sur ce sujet. Je pense que tous nos auditrices et nos auditeurs ont pu apprendre aussi beaucoup de choses. Merci infiniment.
Merci à vous. C'est toujours très intéressant d'avoir un espace pour parler de tout ça.
Retrouvez sur le site parents.fr tous nos témoignages et nos articles sur ce sujet, la contraception masculine. Vous pouvez nous écouter sur Spotify, Deezer, SoundCloud et toutes les plateformes de podcast. Et tous les premiers samedis du mois, retrouvez notre nouvel épisode de Galère sa mère, tout frais, tout neuf. Si vous avez envie que l'on aborde un thème qui vous tient à cœur, mettez-nous vite 5 étoiles et envoyez-nous vos suggestions et commentaires. Je suis Dorothée Saada, je vous ai présenté ce podcast réalisé par Nicolas Jean et co-réalisé par Catherine Acouboisiz. À très très vite pour le prochain épisode de Galère sa mère.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real frank discussions, talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics, all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.